Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin l'essayiste et président de l'association musulmane pour l'islam de France, Hakim El Karaoui.
Bonjour Hakim El Karaoui.
Bonjour Alba Ventura.
Vous publiez Les militants du djihad, portrait d'une génération chez Fayard, une enquête considérable que vous avez menée avec l'historien Benjamin Audeyer et le soutien de l'Institut Montaigne. On va y revenir, Hakim El Karaoui, mais tout d'abord, l'Assemblée nationale examine en ce moment la loi sur les séparatismes, enfin loi pour lutter contre l'islamisme radical qui en fait porte le nom de loi qui conforte le respect des principes de la République. Vous diriez que c'est une bonne loi ?
Je pense que c'est une loi nécessaire, mais évidemment la loi ne va pas tout régler. Elle est nécessaire parce que elle va entraver la diffusion d'un certain nombre de pratiques dans des organisations, dans des associations, dans des mosquées, dans des écoles. Et puis elle va élargir l'espace de la neutralité du service public. Mais l'islamisme, ce n'est pas une organisation, c'est une idéologie. Et la loi ne suffit pas pour lutter contre une idéologie.
Elle va pas faire reculer l'islamisme radical, en gros, c'est ce que
vous dites. Elle va essayer de limiter sa diffusion. Après, pour faire reculer l'islamisme radical, il y a deux choses. C'est une idéologie concurrente de l'idéologie républicaine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que la République soit plus attractive d'un côté, et il faut aussi que l'islam soit interprété, proposé, suivant une autre formule, d'une certaine manière.
Cette loi, Hakim El Karaoui, a débuté avec une polémique sur le voile des petites filles. Les députés La République En Marche, Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, ont dû ranger leur amendement qui était destiné à interdire donc le voile pour les petites filles. Quelle est votre position sur ce sujet ? Une petite fille voilée, dans le Coran, il est écrit qu'on ne voile pas les filles avant leur puberté. Ça, c'est du séparatisme ? C'est une atteinte à la laïcité ?
Ça dépend comment on définit la laïcité. C'est très choquant, une petite fille voilée de 5 ans, dans l'espace public, notamment dans l'espace français. Après, est-ce qu'il faut l'interdire ? C'est un débat qui est un débat philosophique, c'est un débat politique. C'est aussi un débat sur, dans une démocratie, est-ce qu'il faut interdire tout ce que l'on veut combattre ? Je pense que c'est très compliqué, parce que on ouvre un champ des possibles extraordinairement important. Parce qu'on va pas interdire le voile des petites filles. On va interdire tous les signes religieux chez les enfants qui sont nubiles, ou les enfants de moins de 13 ans ou 13 ou 14 ans. Ça va avoir des effets de bord, et d'une certaine manière, ça va ouvrir un débat.
On avait bien fait une loi sur le voile en 2004.
Oui, dans un espace très particulier qui est l'espace républicain, le sanctuaire de l'école. Là, on parle de l'espace public. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire, et je suis pas sûr surtout, et c'est ça qui est important, que ce soit efficace.
Mais est-ce que ces amendements qui ont été jugés irrecevables, est-ce que c'est pas parce que la majorité craint de heurter les musulmans, d'être vu comme un amendement anti-musulman ? Est-ce que c'est pas ça le fond de l'affaire ?
Non, parce que vous savez, 95% des musulmans, enfin 99% des musulmans ne voilent pas les petites filles. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on aurait pu dire la loi contre l'islamisme, c'est une façon, d'une certaine manière, de protéger les musulmans. Les musulmans savent très bien qui sont les islamistes et quelles sont les pratiques des islamistes. Donc, faut pas avoir peur de nommer les choses.
Encore une question. La République est challengée. Une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo a révélé que 53% des profs du second degré dans le public ont vu dans leur établissement des élèves contester l'enseignement ou tenter de s'y soustraire au nom de la religion. Il y a des sujets qu'on ne peut plus enseigner à l'école de la République, Hakim El Karaoui ?
Non, je serais pas aussi catégorique. Il y a des sujets qui posent problème. Il y a des difficultés parce qu'effectivement il y a des contestations.
Il y a des profs qui jettent l'éponge.
Bah il faut,
même
il faut,
si c'est minime.
Il faut les soutenir. Il faut aussi leur rappeler les principes. Il faut aussi mieux les former parce qu'il faut leur apprendre à répondre à ces contestations. Mais effectivement, quand j'avais fait une enquête en 2016 sur les musulmans, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait une majorité qui sont des Français comme les autres. Et puis on voyait une minorité importante, 28%. Et dans cette minorité, il y avait 45% des jeunes. Ils sont là, les 45% des jeunes. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, l'islam est mon identité. Et donc, mon identité est au-dessus des lois de la République. Et donc, eux, ils vont contester, mais à eux, il faut leur dire, à la fois, il faut résoudre le problème de leur identité, et puis il faut leur dire, vous n'avez pas le bon islam. Il n'y en a pas qu'un.
L'islamisme radical produit le djihadisme ?
Ah oui, il y a une continuité immédiate entre les deux phénomènes. On a montré dans cette enquête, donc cette enquête en deux mots, c'est 1400 djihadistes étudiés, leur parcours, 700 français et puis 700 belges, allemands et britanniques. C'est 18 mois de travail de 5 personnes. Ce qu'on a montré, c'est que la moitié des djihadistes sont passés par le salafisme.
Et vous dites qu'il y a une génération de djihadistes. C'est quoi cette génération ?
Bah, quand ils se sont engagés, c'est la génération Syrie. Quand ils se sont engagés, ils avaient tous le même âge, 25 ans de moyenne d'âge. Tous, si on prend les Français, tous Français, 94% sont Français, 90% sont nés en France. Donc, c'est pas un problème extérieur.
Mais là, pour l'assassinat de Samuel Paty ou l'attentat de la basilique de Nice, ce sont des personnes venant de l'extérieur, enfin, un Tchétchène et puis un Tunisien.
Eux, c'est un peu différent. C'est la génération d'après. Eux, ils sont dans le djihad idéologique, pas dans le djihad armé. Mais dans ce djihad idéologique, il y a des gens qui sont fragiles. Il y a eu la republication des attentats de Charlie Hebdo. Ils se sont sentis investis d'une responsabilité divine. Dans le travail qu'on fait, on regarde aussi l'avenir. Et l'avenir, pour nous, il y a deux scénarios. Il y a ce scénario-là, d'une certaine manière, la salafisation des esprits, qui continue. C'est ça le séparatisme. C'est ça contre quoi il faut lutter. Et c'est ça l'objectif de la loi. Lutter contre ce phénomène-là. Et puis, il y a un autre scénario. Pardon, il est encore pire d'une certaine manière. C'est le djihad armé, organisé, en groupe, mais non plus en Syrie, mais en France et en Europe.
Comment se fait la bascule chez ces djihadistes ? Comment on devient djihadiste ? Qu'est-ce que vous révélez dans votre livre ?
On voit, en fait, il y a un certain nombre de conditions nécessaires et puis à la fin qui peuvent produire la bascule. Ils viennent tous de quartiers populaires, des grandes métropoles. Pour 2/3 d'entre eux, ils ont des origines immigrées, notamment maghrébines. Mais il y a aussi 25 à 30% de convertis qui en fait sont leurs copains. Ensuite, ils viennent de quartiers où il y a une recomposition religieuse depuis très longtemps. Et notamment une présence de l'islamisme très importante. Mais s'il n'y a pas un recruteur, un entrepreneur djihadiste, il se passe rien. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, non seulement qui hameçonne sur les réseaux sociaux, mais qui, à la fin, leur parle, les encourage, leur dise, viens, on a un projet idéologique qui est beaucoup plus qu'un projet religieux, et viens, tu as ta place, et on va mener le combat.
Et qu'est-ce qui va les influencer, en fait ? Parce que à chaque fois, on se demande d'où ça vient, tout ça ? Est-ce que le djihadisme qui s'installe en Europe, ça vient des versets sataniques de Salman Rushdie ? Est-ce que ça vient de l'attentat du World Trade Center ? Est-ce que ça vient des conflits au Proche-Orient ? D'où ça vient ?
Non, c'est d'abord l'idée qu'il y a un conflit entre eux et nous. Entre, vous savez, l'islamisme, il est né d'un conflit avec l'Occident, avec la colonisation en fait. Et le djihadisme, il est plus récent, il vient d'Afghanistan, mais c'est toujours la même vision du monde. Il y a eux et il y a nous, et eux, ils sont dangereux pour nous. Et donc, il y a plusieurs degrés de gradation évidemment, mais certains vont dire, il faut qu'on prenne les armes pour se défendre.
Hakim El Karaoui, on peut réinsérer les djihadistes ? Des gens qui sont allés comme ça aussi loin peuvent revenir parmi nous ?
Oui. D'ailleurs, il y a un travail qui est fait de réinsertion. Il y a un programme, le programme PER, qui est, je crois, assez efficace, qui consiste à dire, et c'est toujours très important, on peut les réinsérer aussi en leur disant « la religion dit autre chose que ce que vous pensez ». Et bien souvent, en France, on était dans l'impensé religieux. Couvrez cette religion que nous ne saurions voir. Il faut voir la dimension religieuse, elle est très importante. Et il faut aussi combattre le djihadisme par les arguments religieux.
Dans votre livre, vous mettez l'accent sur la prison. D'ici à 2022, 153 détenus condamnés pour terrorisme vont sortir de prison quand on sait que le taux de récidive est très élevé. Et puis sans compter tous ceux qui vont se radicaliser en prison et puis sortir. Vous diriez, Hakim El Karaoui, que le Conseil constitutionnel a commis une erreur en août dernier lorsqu'il a censuré les lois qui prévoyaient des mesures de sûreté pour ces détenus terroristes ?
Non, je ne serais pas aussi catégorique parce que, d'abord, il y a des capacités à suivre. Ensuite, il y a un principe qui est, je crois, toujours très 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 important, c'est que il ne faut pas s'asseoir sur nos principes fondamentaux. La liberté, c'est le principe fondamental de la démocratie. Donc, il faut pouvoir encadrer, évidemment, ces détenus quand ils sont dangereux, mais il ne faut pas non plus aller trop loin parce que sinon, en fait, on leur donne des raisons de pouvoir prendre les armes contre nous.
Non, mais on parle de personnes dangereuses, pardon. Le Conseil constitutionnel estime que aller se présenter à un juge, se présenter à la police ou être placé sous bracelet électronique, cela porte atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie de famille normale. On parle de personnes dangereuses qui veulent nous tuer.
Je crois que ce que disait le Conseil constitutionnel, il insistait sur la durée de la période. Et par ailleurs, je me souviens d'une interview de Laurent Fabius disant « on peut faire beaucoup après la détention ». Donc évidemment qu'il faut continuer à les suivre dans le respect des règles de droit. Sur les prisons, une chose, il y a 1300 détenus terroristes et radicalisés. 500 terroristes, 800 radicalisés en prison. Il faut absolument qu'il y ait un traitement non seulement de social, mais aussi religieux. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ce qu'on montre, c'est qu'il y a une adhésion.
C'est-à-dire, oui, ça veut dire quoi ?
Il faut faire du contre-discours religieux. Les terroristes pensent que ils sont dans la bonne voie de la religion. Parce qu'en fait, personne ne leur a dit qu'on pouvait être musulman d'une autre manière. Vous allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, 95% des réseaux sociaux, ce sont des contenus islamistes. Donc, dans le travail de lutte contre le séparatisme et l'islamisme, il faut aussi proposer à ces jeunes une autre version de l'islam. C'est le rôle des musulmans.
Et le rôle des représentants des musulmans. Enfin, vous voyez où on en est. L'organisation de l'islam de France, ça paraît impossible. Trois fédérations qui représentent l'islam turc n'ont pas voulu signer la charte du Conseil français du culte musulman. Comment on fait ?
Moi, je pense qu'il faut changer d'interlocuteur. Le Conseil français du culte musulman, c'est 9 fédérations, 6 qui représentent des États étrangers et 3 des organisations islamistes. On leur demande deux choses. Lutter contre l'ingérence étrangère d'un côté, lutter contre l'islamisme de l'autre. Ça peut pas marcher. Il faut faire la représentation des musulmans avec la nouvelle génération de Français de confession musulmane, intégrés, modérés, éclairés, qui sont prêts à faire la transparence sur les financements. La question de l'argent est essentielle, et à bâtir un nouveau système.
Mais qui sont-ils ? Ils sont organisés, ces gens-là ? Cette nouvelle génération ?
Il faut contribuer à les organiser. La MIF que j'ai créée, son objectif, c'est être une caisse centrale, transparente, pour rendre des services au culte musulman, et avec cet argent, socialisé, mis au service de la collectivité, former les imams, faire la recherche théologique. Si on ne fait pas la recherche théologique, on ne fait rien. Et pouvoir aussi les payer.
Merci beaucoup, Hakim El Karaoui. Je rappelle votre livre, Les militants du djihad, portrait d'une génération, aux éditions Fayard.
On combat une idéologie par une autre idéologie, celle de la République et de nos valeurs, vient de nous dire Hakim El Karaoui. L'intégralité de l'entretien.